Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'afterfoot intégrale Coupe du Monde avec Daniel Riolo et Florent Gautreau. C'est une grande soirée de foot. En tout cas, on a déjà vécu de grandes émotions avec ce Argentine-Égypte. Ça va peut-être continuer avec Suisse-Colombie, on l'espère.
Mais faisons tous les matchs.
Ouais. Cette nuit, le Belgique-États-Unis était
encore mieux. Le Mexique-Angleterre.
Je suis un peu ennuyé devant ce.
On est sur un mais bon, il était sympa. Il y avait moi, j'étais très surpris par la Belgique.
On est sur un enchaînement. Alors justement, puisque tu en parles, je vais m'arrêter deux secondes.
Enfin, petite parenthèse, ensuite on accueille un grand champion.
Et moi, honnêtement, je défends la théorie que Trump a plombé la sélection US. Les voir aussi peu dynamiques, alors que depuis le début de la compète, ils étaient excellents. Moi, je pense qu'il les a plombés.
La Belgique.
Et les Belges, on les a jamais vus aussi forts. Ils ont été surmotivés.
Écoute, on les a jamais vus aussi forts parce que le sélectionneur a fait des choix forts.
Alors, ça, c'est intéressant parce que Rudy Garcia était très critiqué.
Je suis d'accord.
Non, mais si t'enlèves ça et le pressing incroyable.
Tout le cirque a beaucoup tapé la tête.
Moi, je vais te dire, j'aime pas du tout Rudy Garcia et je le félicite parce que le début de match, la compo et les 20 premières minutes qu'ils ont infligées aux États-Unis, c'était remarquable. Je fais un tête à queue complet sur la Belgique. Je ne les voyais pas aller loin. Et en tout cas, ils ont été bons cette nuit. Mais bon.
Flo, Daniel, on accueille un grand champion, champion du monde 98, Patrick Vieira, et dans l'after. Bonjour, Patrick.
Bonsoir.
Salut, Patrick.
C'est un honneur de t'avoir, Patrick.
On s'est vu aux États-Unis il y a pas longtemps, il y a une semaine, à New York.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
Et parce que Patrick a été l'entraîneur de Max Chano.
De Maxime Chano,
on a
phénomène.
On a quelqu'un en ligne qui sait réellement le niveau qu'il a.
Alors Patrick, sache déjà que Max Chano fait toujours très très fort dans les nuits new-yorkaises. Il a été notre guide.
Bon, je suis pas surpris. Ouais.
Patrick a aussi été l'entraîneur de Michael Olise. Ça nous intéresse quand même plus. Hein. On va en parler, mais juste Patrick, un mot sur ce Argentine-Égypte que t'as dû suivre comme tout le monde avec une attention incroyable.
Non, mais c'était un match extraordinaire. Enfin, moi, j'ai vraiment pris plaisir à regarder le match. Déjà au niveau du scénario et puis après dans le contenu, j'ai trouvé ce match très intéressant. Beaucoup d'occasions. On a vu une belle équipe d'Argentine qui était toujours restée calme, même si vraiment à 2-0, je me suis dit qu'ils allaient passer à travers. Mais bon, quand Messi il est à ce niveau-là, c'est difficile de tenir.
Comment tu analyses la première heure, on va dire heure 10 de l'Argentine? Est-ce que c'est vraiment un concours de circonstances qui fait que l'Égypte est devant, ou est-ce que tu leur vois des lacunes criantes?
Non, mais moi j'ai trouvé cette équipe d'Argentine qui manque quand même de vitesse. Je trouve que c'est une équipe qui est techniquement vraiment au-dessus de la moyenne. Mais après, je trouve que ça manque un peu de vivacité, de percussion et de vitesse, à part Messi qui est capable de changer de rythme. Après, trouver un joueur individuellement qui est capable de vraiment de changer de rythme dans les 30 derniers mètres, c'est pas évident. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient trouver l'énergie et pour pouvoir passer ce tour-là, quoi.
Ça veut dire que l'idée du miracle permanent, selon toi, a forcément une fin. Tu as du mal, au vu des scénarios, au vu de ce que tu viens de dire, à les imaginer aller jusqu'au bout, finalement.
Exactement. Franchement, avant la compétition, je pensais à une finale France-Argentine.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand je vois le match qu'ils ont fait contre le Cap-Vert, où ils ont quand même eu beaucoup de réussite, et je vois le match qu'ils ont fait encore ce soir, après, dans le foot, on sait que tout peut arriver.
Ouais.
Mais je ne les vois pas aller jusqu'au bout par rapport à ce manque de vitesse, de jambes. Parce que je pense que quand ils vont affronter la France ou des équipes un peu meilleures comme l'Angleterre, je pense qu'ils auront quand même beaucoup plus de difficultés.
Il y a un pays que tu connais très bien et une culture que tu connais très bien, c'est l'Angleterre. Eux aussi ont eu droit à leur match plein d'émotions. Alors eux, tu sais à quel point ils attendent depuis des années d'enfin gagner quelque chose. Quel regard tu portes sur ce qu'ils ont fait depuis le début de cette compète?
Ouais, je trouve que déjà dans la phase de poule, ils étaient assez moyens. Ils avaient fait un premier match assez convaincant, mais après les deux matchs suivants, ils ont été un peu en dedans. Et je pense que cette équipe avait besoin d'un match référence.
Ah oui.
Et je pense que contre le Mexique, c'est le match qui va leur donner cette confiance qu'ils avaient besoin, parce qu'ils auraient énormément souffert. Ils sont passés à 10, mais ils ont réussi à passer. Et je trouve que ce match va créer ce côté où ils vont plus croire en eux. Et je pense que l'Argentine, pour l'Angleterre, pardon, reste quand même l'équipe qu'affrontera la France en finale pour moi.
Ah oui, France-Angleterre en finale. Oui.
Okay. Non, moi j'avais une question justement sur la défense, parce que sur beaucoup d'équipes d'ailleurs on a remarqué qu'il y a des carences, et même sur le gardien, et même s'il a fait un bon match d'ailleurs contre le Mexique, je me dis toujours que ils vont se faire planter à un moment ou à un autre. Il y a trop d'incertitudes, trop d'hésitations. Est-ce que toi tu le juges aussi comme ça?
Oui, mais parce qu'ils ont un jeu qui est basé sur la transition, et après c'est vrai que sur l'aspect défensif, il leur manque peut-être ce joueur référence qui peut vraiment guider l'équipe. Mais je trouve que c'est des joueurs individuellement qui jouent dans des grands clubs, qui ont fait des matchs de Coupe d'Europe, qui ont quand même une certaine expérience. Moi, je pense que défensivement, même si c'est une équipe qui a des difficultés, mais c'est une équipe qui tiendra la route. Après, au milieu de terrain, je trouve assez costaud. Devant, ils arrivent toujours à marquer des buts. Moi, je pense que
ils
c'est
ont un duo qui porte l'équipe et qui a l'air d'être là pour marquer l'histoire du foot. La Bellingham, Kane, ils sont à l'instar un peu de Olise, Mbappé. Ils sont là un peu pour marquer les esprits. C'est un atout aussi. Ouais. Ça. Ouais.
Bien sûr, Bellingham, surtout qu'il y avait des points d'interrogation bien sur sûr. Lui, à savoir s'il allait être titulaire ou pas. Mais je pense que là, il est en train de mettre tout le monde d'accord par rapport à sa Coupe du Monde. Et lui et Kane peuvent être vraiment les deux stars de cette équipe.
L'histoire que tu évoquais, je me souviens qu'on en avait parlé également hier avec Julien Laurence notamment. L'idée de gagner dans la souffrance, c'est important pour un groupe?
Non, mais c'est vachement important parce que ça te donne beaucoup plus de confiance. Parce que je pense que le match contre le Mexique a quand même créé des liens assez forts entre les joueurs. Moi, je les ai vus célébrer comme jamais après ce match dans les vestiaires. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il y a ce match référence par rapport au résultat, mais aussi par rapport à la souffrance qu'ils ont eue, parce que jouer à 10, c'était pas évident, contre les Mexicains que j'ai trouvé plutôt bon. Ils ont souffert tous ensemble. Et là, ça va forcément créer des liens de solidarité pour le reste de la compétition.
Patrick Vieira en direct sur RMC dans l'After. Patrick, on va parler de l'équipe de France,
oui,
parce qu'il y a un joueur
on lui a parlé tout sauf des bleus pour l'instant,
qui éblouit le monde, c'est Michael Olise. Tu l'as eu à Crystal Palace, c'était en 2023. Est-ce qu'à l'époque tu voyais déjà le joueur qu'il est aujourd'hui?
Oui, c'était un joueur qui était quand même au-dessus des autres par rapport à son intelligence de jeu, par rapport à sa créativité, par rapport à sa qualité technique. Il avait passé une saison assez compliquée à Palace quand il est arrivé de Reading. Il a eu quand même pas mal de blessures qui ont empêché de pouvoir progresser. Mais c'est quelqu'un qui a toujours su ce qu'il voulait, et puis c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et aujourd'hui, il est en train de voir à quel point il est doué.
C'est une aubaine pour l'équipe de France d'avoir touché ce
ouais,
joueur-là.
Justement, j'allais demander, est-ce que quand tu l'avais avec toi, parce que moi je dis toujours, mais enfin, il est tombé du ciel quoi pour la France, que ce gars-là décide, tiens, je vais aller jouer pour les Bleus.
Enfin, il a toujours été passionné de l'équipe de France, il a toujours aimé l'équipe de France, et moi je me souviens avoir eu des discussions avec lui, et il y avait zéro doute dans sa tête pour la sélection qu'il allait représenter quoi. Ça a toujours été l'équipe de France. Il a toujours su que il y avait peut-être plus de moyens de gagner avec la France que l'Angleterre, mais il y avait jamais cette question de doute dans sa tête par rapport à la sélection qu'il allait représenter.
Et lui-même savait qu'il pouvait, parce que la question même au départ, c'est tu peux jouer pour l'équipe de France. Il avait regardé, il savait qu'il pouvait.
Oui, mais lui, c'est quelqu'un qui doute pas.
Non, Daniel, c'était pas dans ce sens-là, Patrick. Non, c'était pas dans ce sens-là que je faisais la question en rapport au règlement, parce que ni son papa ni sa maman sont français.
Non, mais lui, il était convaincu qu'il jouerait pour l'équipe de France.
D'accord.
Même si jouer pour l'équipe de France, fallait quand même être très bon, et que lui, il était au début de sa carrière en première ligue. Mais dans sa tête, c'était vraiment zéro doute pour représenter l'équipe de France.
Et d'ailleurs, la preuve, c'est que il a préféré, alors qu'il était sollicité par d'autres sélections, faire le tournoi olympique, par exemple, avec les Bleus en 2024. Donc, ça confirme un peu ce que tu dis. Je crois qu'il y a un partenaire aussi, je ne sais pas si c'était à Palace ou avant, qui a témoigné là récemment dans la presse en disant que effectivement, il lui avait toujours dit qu'il voulait jouer avec l'équipe de France. Moi, j'avais une question sur son tempérament, c'est-à-dire ce côté un peu mutique, un peu très très calme, très très relâché. Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Et là, on a vu aussi une autre facette quelque part contre les Paraguayens, où quand ils sont venus le chercher, il a quand même su résister. Est-ce que ça, tu voyais déjà ça à Crystal Palace?
Oui, c'est quelqu'un qui est assez réservé, pas timide, parce que quand on est en face de lui, il y a quand même une discussion qui est mise en place et qu'il arrive à donner son opinion sans problème. Mais c'est quelqu'un qui est assez réservé, qui parle pas beaucoup, mais qui a une grande personnalité, et ça s'est vu sur le terrain, parce que quand faut répondre, il répond par rapport à ses qualités techniques. C'est pas quelqu'un qui va se cacher quand le match va être très compliqué. C'est quelqu'un qui est réservé, qui est calme, mais avec une très grosse personnalité et qui a peur de rien sur un terrain de foot, quoi.
Patrick Vieira dans l'after sur RMC. Si on revient sur la compète de l'équipe de France, c'est une des équipes qui a le plus impressionné et qui fait partie des 2-3 favoris. Qu'est-ce que les Bleus peuvent faire de mieux, Patrick? Qu'est-ce qu'on peut améliorer?
Non, mais ce qu'on va leur souhaiter, c'est de continuer. Je pense qu'ils ont vraiment été très séduisants sur les matchs qu'ils ont fait jusqu'à présent. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment de voir l'atmosphère et de voir l'état d'esprit de l'équipe. Je trouve que c'est un groupe qui est vraiment soudé. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance quand je vois la façon qu'ils ont célébré aussi cette victoire qui fait vraiment plaisir à voir. Je trouve que même avant la compétition, il y avait peut-être des questions sur les égos des uns et des autres, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous mis ça de côté et que les Becs vivent vraiment très bien et qu'ils prennent vraiment beaucoup de plaisir à jouer ensemble.
C'est la qualité de Deschamps, ça, de savoir, parce que bon, nous dans l'after, je sais pas si tu le sais, mais pendant longtemps on a évidemment on constate à quel point il est fort pour construire un groupe et dans le management mental, mais le jeu, on critiquait le fond de jeu des Bleus, en tout cas moi pour ma part. Là on a l'impression que il y a les qualités pour le groupe, le vivre ensemble de l'équipe, on constate que tout va bien. Et en plus, cette année, il a ajouté le risque du quatrième joueur offensif et un jeu plus attractif.
Oui, forcément, c'est la qualité de l'entraîneur, mais aussi je pense qu'il y a l'intelligence des joueurs qui fait que tout le monde est en train de mettre sa qualité individuelle au service du groupe, et à partir de là, avec la qualité qu'ils ont, ils sont arrivés à enchaîner les matchs et des belles prestations et des belles victoires. Je pense que quand on a Olité aussi dans son groupe qui épanouit le jeu comme il le fait, surtout quand il est dans l'axe, je trouve que c'est très intéressant pour les attaquants qu'on a devant, quoi. Je trouve que c'est une belle équipe de France qu'on est en train de voir.
Il y a une question qu'on se pose depuis quelques temps sur Deschamps et cette last dance. C'est ce choix de quatre offensifs, cette façon de vouloir sortir en beauté. Est-ce que toi, tu as aussi cette analyse-là? C'est-à-dire, c'est la dernière compète et c'est pour ça qu'il tente quelque chose, ou tu te dis qu'il est pragmatique et qu'il se dit, avec le réservoir de talent que j'ai, il faut que j'aille sur cette solution?
Il rigole, Patrick.
Non, je pense qu'il est... Non, je rigole parce que bon... Je pense qu'il est pragmatique. Il y a aussi la qualité des joueurs, mais je pense qu'il est en train de les mettre vraiment dans des bonnes conditions pour que les mecs puissent s'expliquer. Je trouve que il y a une génération qui est quand même extraordinaire quand on voit des joueurs dans les clubs dans lesquels ils évoluent.
Ah, on a une
génération qui est formidable.
Oui. Patrick, reste avec nous, on a encore beaucoup de choses à te demander, notamment, on va voir si tu es d'accord avec Youri Djorkaeff, qui estime que c'est un peu pauvre techniquement cette Coupe du Monde comparé à ce qu'il a connu lui. C'est un débat intéressant. Youri qui estime qu'en tout cas
il était
plus fort à son époque.
Il était caché par Infantino,
et
pas tous les matchs.
Et puis on parlera de la suite aussi de la carrière de Patrick Vieira. Vous êtes sur RMC, c'est l'after, on revient tout de suite.